Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Christian Saint-Paul et de Claude Bretin. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé pour avoir monté cette côte qui nous amène ici dans ce studio de la rue d'Assali. La côte, je la monte à vélo. Sylvain Tesson avait écrit dans « S'abandonner à vivre », qui a même été publié en folio chez Gallimard. « Depuis un séjour au Maroc, j'avais contracté une aversion pour les terres d'islam, où les femmes rampent, écrasées de la culpabilité d'exister, assommées par des soleils d'enclume et le regard des hommes fiévreux de frustration. » Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs poètes. Le premier, ce sera Abdellatif Lahabi. Nous en avons déjà parlé de Abdellatif Lahabi, nous avons fait une émission avec lui, et au mois d'avril, nous ferons de nouveau une émission avec Abdellatif Lahabi, poète franco-marocain, qui vient de publier un nouveau recueil au Castor Astral. Mais avant de vous parler de ce nouveau recueil, je voudrais vous parler d'un ancien recueil de Abdellatif Lahabi, publié toujours au Castor Astral, je crois que c'était en 2015 ou 2016. Je voudrais revenir sur ces textes-là, des textes jubilatoires, fabuleux, Abdellatif Lahabi, l'espoir à l'arraché. Mais pour nous mettre un peu dans l'ambiance de ce qu'a été la poésie de Abdellatif Lahabi, lorsqu'il a commencé, c'est-à-dire dans les années 60, j'en ai parlé ici à ce micro, de l'aventure d'Abdellatif Lahabi, qui a toujours livré bataille contre ce règne de barbarie, ce sont ses mots, qui n'a cessé de pourfendre, et c'est l'objet de ce livre, L'espoir à l'arraché, depuis son premier livre qui avait été écrit au milieu des années 60. Lui qui a fondé, en 1966, la revue Souffle. Cette revue qui avait vraiment subverti le champ littéraire et culturel du Maghreb, et son combat pour la liberté lui a valu d'être emprisonné de 1972 à 1980 dans les geôles du Maroc, qui étaient quand même des lieux de vie très durs. Et depuis 1985, Abdellatif Lahabi, il vit principalement en France, il est né à Fès, où il retourne, il y était là il y a quelques semaines encore, il est né en 1942 à Fès, il y était il y a peu de temps encore. Et son œuvre, il va en définitive circuler dans tous les genres littéraires, mais la poésie c'est vraiment sa place centrale de l'œuvre littéraire, c'est la place centrale de l'œuvre littéraire d'Abdellatif Lahabi. Il a été couronné par de nombreux prix. Il a eu le Goncourt de poésie, le Grand Prix de la francophonie. Son œuvre a été traduite dans un grand nombre de langues. Et lui-même, Lahabi, il a traduit en français plusieurs écrivains arabes. Voilà. Alors, à lire Le principe d'incertitude aux éditions La Différence et L'arbre à poèmes, évidemment, dans la collection, la petite collection blanche Poésie Gallimard, qu'il ne faut pas manquer. Alors, avant de vous faire écouter L'espoir à l'arraché, on va se replonger dans cette ambiance que j'ai moi aussi connue, dans laquelle je pourrais souscrire moi aussi les mots terribles de Sylvain Tesson dans ce séjour au Maroc dont il parle, puisque moi, dans un séjour au Maroc en 1970 et 1969, où j'étais allé justement voir les poètes de la revue Souffle, dont beaucoup étaient en prison, ils ont été emprisonnés très rapidement, très rapidement en 1969 déjà, la revue Souffle, et il fallait s'arrêter. Et Abdellatif Lahabi, lui, a eu la chance de naître en définitive, de passer à travers les mailles là, de cette période, moi, que j'ai connue, qui était une période terrible, hein, 1969-1970, là, terrible, terrible, une répression terrible dans 1902. Mais lui, il passe à travers les mailles, se débrouille. Et en définitive, il n'est arrêté qu'en 1972. Voilà. Donc, je vais vous faire entendre un autre poète du Maghreb. Cette fois-ci, ce n'est pas un poète maghrébin, c'est un poète français qui a vécu au Maghreb, qui a vécu en Algérie, et qui a été assassiné en 1973 en France, qui a marqué l'histoire de Radio Alger et qui a marqué l'histoire de la poésie algérienne. Il s'agit de Jean Sénac. On va commencer sur Jean Sénac. On va l'écouter, Jean Sénac, mis en musique et chanté par Gilles Méchin, accompagné de Alain Bréheret, qui a accompagné pendant 40 ans peut-être le poète chanteur toulousain Bruno Ruiz. Nous écoutons Gilles Méchin qui chante Jean Sénac.
Si chantait mon amour, c'est aimer ma patrie, je suis un combattant qui ne se renie pas. Je porte au cœur son nom comme un bouquet d'orties. Je partage son lit et marche de son pas. Sur les plages, l'été camoufle la misère et tant d'estomacs creux que le soleil bronza. Dans la ville, le soir, entre las aulières, le chardon de douleur, cet unique repas. Nous pouvons oublier, dans un baiser facile, le sang de Dien Bien Phu ou celui de Kaza. Il vient toujours un temps où la beauté s'exile, un temps où la colère nous arrache à nos draps. Lors je perds, me plains et retrouve au combat le droit de te chérir et de sauver notre île. Si chanter mon amour, c'est aimer ma patrie, je suis un combattant qui ne se renie pas. Je porte au cœur son nom comme un bouquet d'orties. Le chardon de douleur, cet unique repas. Le sang de Dien Bien Phu ou celui de Kaza. Il vient toujours un temps où la beauté s'exile, un temps où la colère nous arrache à notre âme. Or je perds, me plains et retrouve au combat le droit de te chérir et de sauver notre île. Tout ici est de peau bronzée, abricot doux comme une fièvre. Les regrets ont mis sur mes lèvres la nourriture d'un été. Tout ici est de peau bronzée, tout ici est d'algues rapides, caressantes comme un secret, le corps étant sa vanité. Sous une parole limpide, tout ici est d'algues rapides, tout ici est de sable exact, où le pied brouille les chemins, avant de retirer la main, tu refais ta mer excessive. et de sable exact. Tout ici est d'amour fragile, à la mesure du soleil. Tu déniches dans un orteil lancinant le dépôt des îles. Tout ici est d'amour fragile, tout ici est suant de sève, son corps têtu comme ses mots, sa voix charnue comme son rêve, son cœur tendu entre deux eaux. Tout ici est suant de sève, de peau bronzée, d'algues rapides, de sable exact. D'amour fragile. Parfois, dans mon sommeil, un grand manège d'agonie m'accable. Et j'entends la note bleue du diable dont mon frère Henri Créa se sert comme d'un cran d'arrêt. Nous avons les mêmes héros, la même beauté vertébrale, aux terrasses de l'exil, les mêmes journaux pour nous meurtrir. Et cette voix commune, fidèle à l'espérance, où crépite la rauque syllabe des messagers de Blida. Petite rose du Sahel, nous t'avons préparé une terre amicale. Bientôt, à chaque rafale, c'est une grappe de glycine qui répond. Une mécanique heureuse. Nos enfants sauront lire, ils connaîtront nos actes, ils appliqueront la vertu parfois dans mon sommeil.
Voilà, Gilles Méchain, donc, il chantait Jean Sénac. Jean Sénac, que l'on associera toujours à la poésie, aux poètes du Maghreb. Et accompagné par le pianiste aveugle Alain Bréhéré, donc, qui a été le grand pianiste de Bruno Ruiz. Abdelatif Labi, l'espoir à l'arraché. Je vais lire le poème comme il vient. Il va nous parler de ce poème. À voix basse. Je croyais que la poésie me protégeait. Je découvre qu'elle me rend plus vulnérable. La page que j'ai lue et par acquis de conscience relue est trop lourde. Je n'ai plus la force de la tourner. J'ouvre les yeux avec cette peur au ventre de ce que je vais voir. Imaginez encore et toujours, je m'en mords les doigts. J'hésite à respirer trop fort. La charogne, le charnier ne sont jamais loin. Ma surdité, hélas, n'est pas totale. La tête s'est de nouveau détaché du corps. J'ai oublié comment je faisais pour les ressouder. L'illusion est reposante. Reconnaissons-lui au moins cette vertu.
Le silence parle mieux de l'incompréhension, de la douleur, de la folie ordinaire. Le silence, matière noire du langage. De nos jours, on ne s'interroge plus, on s'exclame. Un ciel intérieur. L'idée est féconde. Le temps de la creuser nous est hélas compté. Depuis que nous connaissons mieux l'univers, le spectacle de la Voie lactée n'est plus romantique. Comment peut-on s'extasier devant un immense cimetière peuplé de phalènes? L'inconnu ainsi nommé l'est déjà un peu moins. Les ténèbres sont franches, elles ne trompent pas. Vu du plus profond du cosmos, toute cette agitation qui secoue notre planète doit paraître vraiment suspecte. Encore plus que les actes, les idées malfaisantes qui traversent l'esprit des humains sont terrifiantes. Il suffit de peu. Seulement voilà, ce peu s'avère souvent chimérique. L'horreur nous épuise. Elle malmène en nous la bonté et bride jusqu'au désir. Le corps et l'esprit se sont lassés l'un de l'autre, mais ne savent pas quoi faire pour se séparer. Résister ne me remplit plus la bouche. Il m'en faut davantage pour me sentir de nouveau percutant et rebelle. Ah, très beau poème, donc, d'Abdelatif Labi, où il dit « Un résisté ne me remplit plus la bouche, il m'en faut davantage. » Voilà, il arrive donc à cette période de sa vie, il est né en 42. Il écrit ça, ça peut être en 2015-2016. Il écrit ça donc dans un âge peut-être qui est déjà un âge avancé, et à cet âge avancé, bien sûr, il y a ce recul que l'on a sur la vie, sur ce combat aussi, ce combat épuisant qui a été le sien, et qu'il résume bien aussi. Un combat pourquoi ? Parce qu'il suffirait de peu, de si peu, hein, mais ce peu s'avère souvent chimérique. Regardez, ce peu qui n'arrive pas à faire que les armes cessent, que la guerre s'arrête, que les hommes se respectent. Légèreté. Je rêve. Les yeux ouverts. J'écris. Les yeux fermés. Tiens, on dirait un poème. Beauté de l'âme, beauté du geste. La magie du clair-obscur est-elle due au clair ou à l'obscur? La nuance. Un art à part entière. Énigme du sourire, c'est l'amour qui pose la question. Amitié, seul bémol, la chair s'ennuie. Pourquoi voyager quand je peux faire le tour de l'humanité en un clic dans ma tête? 9 mois pour concevoir un poème. Le poème, eh bien, le fils de l'homme. Mais de la femme, pardi. Pitié pour les prématurés. Voilà, on retrouve cet humour d'Abdelatif Labi. Amour compliqué. J'en veux à la vie, et je suppose qu'elle aussi m'en veut. Entre nous, ce n'est pas encore la guerre. C'est juste le dépit, propre aux amours compliqués. Voilà, tout l'humour de Labi est là. Le ciel et moi. Malgré les nuages apparemment menaçants, le ciel reste clément. Sa rectitude morale, si j'ose dire, vient de sa totale abstraction. Le regard s'y noie. L'ascension se prolonge, devient vertigineuse. Puis, l'on ne sait comment, elle s'inverse d'un bond. Le regard galope, dévale nos profondeurs, ayant pris du ciel un peu de sa rectitude, un peu de sa clémence. Imminence. Dans un autre pli du temps, le réveil inattendu
une cascade intelligente, les trilles d'un oiseau parfaitement compréhensible, une fourmi passe et repasse sur mes paupières, ma main caresse la fourrure d'un animal que je ne saurais nommer, la vie, qui se présente à l'instant, prend le visage d'un objet d'amour imminent. Alors, il associe toujours, la vie à la tendresse, et à l'amour. Hein. La vie prend le visage d'un objet d'amour imminent. Hein. Donc, la vie, elle est là pour donner, justement, l'amour, pas le, malheureusement, ce que l'on voit tous les jours, l'inverse, l'amour imminent. Nature vivante. Le bourgeon s'ouvre sur un printemps timide, arraché aux griffes de l'hiver. Un friselis s'insinue parmi les branches en mal d'amour. Le soleil, en revenant, se frayant un passage parmi la meute famélique des nuages. Prémisse de l'ondée, le geste du calligraphe quand il s'apprête à esquisser un arc-en-ciel. Suffit. Il ne faut pas trop charger l'image. Alors, il dit ça, il ne faut pas trop charger l'image, mais en définitive, chez lui, c'est une préoccupation majeure. Cette préoccupation, justement, de ne pas alourdir le poème, de pouvoir être dans la retenue, de ne garder que l'essentiel du poème, de ne pas se perdre, parce que on peut se perdre aussi dans le poème, dans l'élan poétique, on peut s'y perdre. Et il faut cet élan, il va falloir le maîtriser aussi. Et ça, il sait très bien le faire. Demande, un faux pas, et tout l'acquis partirait en fumée. Une révélation ? Soyons réalistes, mais de grâce, au moins une intuition de ce que la marâtre mémoire gardera de la belle aventure. Allez, quelques ultimes preuves d'amour, un peu plus subtiles. Des fragments de mystère, enfin lisibles, un instant de vigueur où les corps, au fait de leur gloire, s'adonneraient à la genèse, en pleine apocalypse. Rapace. Le rapace de l'oubli plane à heures régulières au-dessus de ta caboche. À certains signes qui ne trompent pas, on voit qu'il est impatient de fondre sur la chair encore tiède de ta mémoire et de n'en faire qu'une bouchée. Voilà. Toujours dit avec humour, mais il révèle là, bon, il a, quand il écrit ça, il a un certain âge et il connaît, hein, ce que je connais là tout à l'heure. Je n'arrive même plus à me souvenir du nom de Claude Bretin, comment ça l'émission, c'est pour vous dire. De temps en temps, effectivement, la mémoire a ses soubresauts, ces espèces de fantaisie, de caprice, qui fait qu'elle vous prive tout d'un coup et sans crier gare, elle vous prive de ses services comme ça, sans que vous ayez rien demandé, avec une effronterie totale. Voilà, c'est ce qu'il dit dans ce poème Rapace, avec toujours cet humour dont, en définitive, il ne se départit jamais, comme tous les gens, hein, qui ont souffert, eu des périodes de souffrance intense, hein, 8 ans dans les geôles marocaines, pour avoir osé publier une revue de poésie Souffle. Hein, c'est quand même... On doit se poser des questions. Appréhension. Ici, le soir ne tombe pas. Il se pose en douceur pour ne pas trop faire sentir le poids de son propre écrasement. Bientôt, la nuit lâchera ses fauves et dans mon sommeil, je me retrouverai sans feu ni lieu. Naufrage. Le bateau qui s'est échoué ressemble au pays que j'ai tant aimé. J'ai trouvé place dans un canot de sauvetage où je rame tel un esclave sous le fouet. Mes compagnons d'infortune prétendent s'appeler Sindbad, Ulysse, Magellan. Ils sont trop joyeux.
pour être honnête. Voilà. Comment aussi d'un thème qui est un thème pathétique, il arrive à s'en sortir par une pirouette et ramener tout ça quand même à cette espèce d'ironie et d'humour grinçant, certes, mais quand même qui ne plombe pas l'atmosphère, qui laisse un peu de légèreté. De l'autre côté, s'en aller de l'autre côté du fleuve, du mur de la vie, cela se passe de nuit plutôt que de jour, à l'issue d'un rêve aux cloisons étanches. Il n'y a ni chute ni ascension, ni marche au-dessus de l'eau ou d'un tapis de nuages. Il n'y a pour suggérer le restant de conscience qu'une masse de lumière d'une incroyable densité, ayant pris la place du cerveau. Quelques secondes et la densité s'atténue, la lumière baisse. La respiration va s'arrêter, on le sait, on l'accepte. De l'angoisse ? Comment serait-il autrement ? Puis, un soupir de soulagement ample. Et quand on a cru partir pour de bon, voilà qu'on se réveille. Abdelatif Labi. Je vais finir par acquis de conscience. Acquis de conscience. J'atteste. J'atteste ce qu'il y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité. Celui qui désire ardemment, plus pour eux que pour lui-même, liberté, paix, dignité. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question « Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme ?» Voilà. Alors, c'est un poème qu'il faudrait placarder sur tous les murs de la ville. Sur les sucettes publicitaires, là. J'atteste. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. Voilà. Alors, c'est un poème qui est effectivement une prise de conscience. C'est un acquis de conscience, mais cet acquis de conscience est un acquis universel. Il devait être partagé par tous, et on ne devrait jamais enfreindre, voilà ce qu'il dit. Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme? Voilà. Il y a un précepte aussi dans lequel, moi, particulièrement, j'ai été élevé. C'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fisse. Mais plus que ça, fais à autrui tout le bien que tu voudrais qu'il te fasse. Voilà, c'est ça. 2100. Si tout se passe bien, May et Riwan connaîtront la fin de ce siècle et ils seront encore assez vaillants. J'ai peur pour eux. Et les jalouses en même temps, dans 70, 80 ans, où en sera notre planète? Où en sera notre humanité? La guerre finale aura-t-elle lieu? Ou verra-t-on l'éclosion d'un nouvel âge d'or? Quelle énigme du vivant, aujourd'hui insondable, sera résolue? Quelle faculté de l'esprit, pour le moment à peine soupçonnée, sera pleinement exercée? Où en sera-t-on de l'exploration, ne serait-ce que de notre galaxie? À l'âge vénérable que mes petits-enfants auront atteint, seront-ils à leur tour grands-parents? Dans quelle zone du monde ou de l'espace vivront leurs descendants? Comment joueront-ils? Quoi les fera rire ou pleurer? Qui d'entre eux deviendra un saint? Qui d'autre un voyou? La poésie existera-t-elle encore et gardera-t-elle quelque utilité pour que l'un d'eux soit tenté de reprendre le flambeau de son lointain ancêtre, qui d'entre eux, à l'âge que j'ai maintenant, couvrira d'un regard attendri ses petits-enfants et se mettra à son tour à se poser des questions. Voyons, quel genre de questions ? Alors vous voyez combien cette poésie est d'une simplicité bouleversante. Hein ? Parce que, bon, on parle beaucoup là de poésie. Bon, on va, bien entendu, toutes les formes de poésie doivent coexister. Mais celle-là, quelle est la difficulté que n'importe qui n'est pas un lecteur de poésie aurait à lire ça ? Il ne peut être que touché par ça. Hein ? Un lecteur de poésie va, bien entendu, le fait de son expérience de lecture du poème, il va pouvoir, je dis bien, avoir du plaisir à accéder à des poèmes peut-être, comment dirais-je, dans une densité de langue, d'image, de métaphore, que sais-je. Mais lui, vraiment, Abdelatif Labi, quand il parle comme ça, et c'est très difficile aussi de faire des poèmes qui soient aussi simples, aussi résonnants, hein, qui arrivent à percuter comme ça, et qui véhiculent des choses. Et ne dites surtout pas que la poésie ne sert à rien. Ne dites surtout pas ça. Hein, ce poème-là, ou le poème avant, eh bien, acquis de conscience. Comment il ne peut ne pas bouleverser les consciences ? Et en bouleversant les consciences, on bouleverse bien entendu l'action. Comme un bœuf, refusant de porter des œillères, je tire la charrue de l'espoir. La terre à labourer est devenue vraiment dure. Les socs n'y résistent pas. Il m'en faut 2, 3 pour creuser un seul sillon. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir, en y mettant toute mon énergie et ma hargne. Je ne me pose plus la question du « depuis quand et pourquoi ?» Je tire, parce que je ne peux pas faire marche arrière, laisser en déshérence le sang que le sort m'a désigné, il y a fort longtemps, pour y planter ma brassée de rêves, comme un bœuf. Je tire la charrue de l'espoir. Maintenant, j'ai blanchi sous le harnais, j'ai mal aux épaules, au dos, aux genoux, et plus douloureux encore, à l'âme. Mais je ne peux pas m'arrêter. Nous autres, bœufs, on n'a pas droit au congé, encore au moins à la retraite. On doit tirer sans lever la tête ou se perdre dans ses réflexions jusqu'à ce que l'on tombe d'un coup pour ne plus se relever. Comme un bœuf, je charrie la charrue de l'espoir. Il ne m'a pas échappé que l'époque où nous vivons est sombre, que l'équilibre de la planète est en train de se rompre, que des fous encore plus furieux que ceux dont nous parlent nos livres d'histoire prennent ici et là les rênes du pouvoir, que des tueurs portant des brassards de sauveteurs circulent parmi nous à visage découvert. Comme un bœuf, je tire à la charrue de l'espoir, et je refuse toujours de porter des œillères. Je vois bien que les graines fécondes que j'espère voir semer après mon labeur deviennent rares, quand elles ne sont pas trafiquées et accaparées par les marchands des fausses espérances. Mais, comme tout bœuf qui se respecte, je suis buté, et je continue à creuser sans me plaindre. Parfois, je sens à mon côté une présence, et sur mon échine, la caresse d'une main secourable. J'entends une voix habitée me murmurer « Courage, frère, encore un petit effort. Il faut bien finir la tâche. » Et tout bœuf que je sois, j'en suis ému jusqu'aux larmes. Alors je tire et continuerai à tirer jusqu'à ce que la nuit, la grande, envahisse ma conscience.
L'amour s'invite. Une question s'impose. Et l'amour? La réponse d'hier était d'hier. À question neuve, réponse neuve. Sinon, s'abstenir.
Tu n'aimes plus comme au temps de la concupiscence de l'œil, de l'envoûtement et des draps déchirés d'insomnie. Tu n'aimes plus comme au temps de la séparation, abstinent, idolâtre, fou de douleur. Tu n'aimes plus comme au temps des retrouvailles, étourdissant, vorace, jaloux, encrevé, libre et honteux de l'être.
Tu n'aimes plus comme naguère, quand tu as taillé dans le désir, la volupté, la délectation, une de tes langues les plus subtiles.
Alors, comment aimes-tu aujourd'hui? Et comment aimeras-tu demain?
À cette question, tu n'as d'autre réponse que la suivante. En aimant.
Ah, merveilleux poème d'amour, hein. Il y a toute la vie de d'Abdelatif là-dedans. Il y a ces périodes, la période de la concupiscence, hein, ce qu'il dit, la concupiscence de l'œil, c'est-à-dire l'amour vraiment érotique, hein, les draps déchirés d'insomnie, voilà, une étape. Et puis, il y a le temps de la séparation. C'est quoi le temps de la séparation? Abstinent, idolâtre et fou de douleur. C'est les 8 années de prison. Les 8 années de prison. Mais ces 8 années de prison n'ont rien entamé à la force de l'amour de Abdelatif. Absolument rien. Et puis, il y a, à sa sortie de prison, ce temps des retrouvailles, étourdissant, vorace, jaloux, en crevé, il dit. Et honteux aussi, comme tous les survivants, comme tous ceux qui ont échappé à quelque chose et qui savent qu'il y a un enfer. Il y a cette honte, effectivement, stupide, mais malheureusement, qui colle à la peau, cette honte d'être là. Et maintenant, il se dit, maintenant, où l'amour, évidemment, à son âge, vire vers l'amour-tendresse, mais c'est un amour merveilleux, l'amour-tendresse. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment je vais aimer maintenant? Ben, je vais aimer tout simplement en aimant. Voilà, un très, très, très beau livre. L'espoir à l'arraché d'Abdelatif Labi au Castor Astral. Ce livre vous coûtera 14 euros. Et nous parlerons bientôt avec Abdelatif Labi en personne, donc du prochain recueil qu'il publiera également au Castor Astral. Alors, dans le peu de temps, je voudrais vous signaler donc d'abord un premier livre, mais peut-être fera-t-il l'objet d'une émission à part entière. La semaine dernière, j'ai lu des poèmes de Stanislas Rodansky. Je voudrais vous signaler de Stanislas Rodansky un livre que vous allez pouvoir trouver facilement, pas celui que j'ai lu la semaine dernière, qui est certainement épuisé, mais celui-là pas du tout, puisque ce sont les éditions Gallimard qui l'ont publié, je crois, en 2014, je dis ça de mémoire. Oui, 2014. Je suis parfois cet homme, poésie, de Stanislas Rodansky. Là aussi, c'est-à-dire, je vous signale juste le titre de ce poète extraordinaire aussi, un poète qui a passé une grande partie de sa vie, la fin de sa vie, mais ça a duré plus de 20 ans, en asile psychiatrique. Alors, je vais lire peut-être juste un petit passage, mais je reviendrai bien sûr sur cette publication. Je pense, donc je suis ma pensée. Me suis donc, j'aime un autre qui me suit comme mon ombre me tue, est, aimé, seul, tu, un. J'en passe des meilleurs et des pires s'en suivent. J'en suis pire et les meilleurs s'en passent. J'en suis, je suis né. Naître ou n'être pas. N'être que néant ou n'être que né. N'être point ou n'être point. Un point nu. L'étoile néga de la nu. Constelle l'un nu. Un nu, né, nué, négo. Alors, il joue évidemment avec le verbe naître et le la naissance, hein, naître ou naître pas. Le premier naître, c'est le verbe naître de la naissance. Hein. Voilà. Alors là, vous voyez une écriture qui n'a rien à voir, évidemment, avec l'écriture limpide et qui est immédiatement accessible de Abdelfatih Lahabi. C'est une écriture, d'abord, qui a une scénographie déjà dans la page, une écriture hachée, une écriture vraiment inspirée. C'est un surréaliste, hein, Stanislas Rodansky. Mais retenez ce titre, Je suis parfois cet homme, aux éditions Gallimard. Si vous pouvez achetez-le, nous en reparlerons. Mais je voudrais finir, c'est malheureusement ce temps qui passe si vite, je voudrais finir sur un événement qui a eu lieu ce dernier samedi dans une ville du Gers, qui est l'île Jourdain dans le Gers. Il est le Jourdain dans le Gers, qui est une ville en poésie. Il y a des villes en poésie, hein. Toulouse n'est pas ville en poésie. Espérons qu'elle deviendra peut-être un jour. L'espoir fait vivre. Capitale de la poésie. Mais pour le moment, elle n'a même pas le label ville en poésie. L'île Jourdain a ce label et l'île Jourdain a consacré donc une de ses rues, a donné le nom d'une de ses rues au poète toulousain, mais qui était né dans le Gers, hein, Claude Barrère. Claude Barrère. Nous avons fait des émissions avec Claude Barrère et vous pouvez les écouter sur notre site lespoètes.site. Lespoètes.site où vous allez avoir toutes nos émissions, hein, vous pouvez réécouter nos émissions là-dessus. Il y a un petit scénario sur le contenu de l'émission, généralement. Et là, vous allez sur les années, vous faites défiler les années et vous trouverez Claude Barrère. Claude Barrère, donc, à sa rue maintenant, avec une plaque jaune et rouge, hein, or et sang, sur un monument, là, sur une brique, là, mur en brique de l'île Jourdain. Et donc, nous sommes allés inaugurer cette plaque avec le maire, les officiels. Il y avait le secrétaire perpétuel de l'Académie de Jeufleureau qui était là, hein, qui s'était déplacé, parce que Claude Barrère était maître de jeu de l'Académie des Jeufleureau de Toulouse. Et alors, il y avait également les autres maîtres jeux, Bruno Ruiz, hein, le poète chanteur Bruno Ruiz était là, Elisabeth Aragon, la poétesse Elisabeth Aragon, qui était là aussi. Et nous avons rendu hommage à Claude Barrère. Alors Claude Barrère, nous en reparlerons. Claude Barrère, il a fait paraître, de façon posthume évidemment, aux éditions toulousaines N et B, un recueil de poésie qui s'appelle Spicilège poétique. Alors, ce spicilège poétique, pas facile toujours à dire, rassemble, c'est ce qui est indiqué sur la quatrième de couverture du livre, rassemble les derniers textes de Claude Barrère, choisis par ses amis avec le soutien de sa fille Isabelle Bach. Artiste, graveur et poète, Claude était un gourmet des mots. Il n'était pas rare qu'il nous fasse partager ses trouvailles avec une certaine jouissance quand il avait mis la main sur un mot dont la rareté, le sens ou la sonorité étaient un trésor à ses yeux. Il aurait donc été satisfait de ce titre, Spicilège poétique. Il aurait aimé ça, Spicilège, c'est sûr. Il ressentait un profond engouement pour le dépouillement sensible du haïku et se qualifiait lui-même de poète du peu et du presque rien. Capable de passer des heures et des soirées pour choisir le mot juste, il ciselait ses phrases avec la même ténacité et patience que ses gravures. La couverture de cet ouvrage en donne un exemple, hein, puisqu'il y a en couverture, bien entendu, une gravure de Claude Barrère. Alors Claude Barrère, qui était natif du Gers, dont il nous parlait très souvent, a publié dans différentes revues de poésie. Il est également l'auteur de plusieurs livres pour lesquels il a eu à maintes reprises la reconnaissance de ses pairs, disons qu'il a eu le prix, entre autres, Hilary Voronka à Rodez en 1980 pour un ouvrage qui s'appelait Vue probable, qui a été publié l'année suivante. Par sa plume ou par son trait de graveur, Claude Barrère a aussi collaboré de nombreux livres d'artistes. Il y a à la bibliothèque du Périgord de Toulouse un livre d'artiste qui s'appelle Le Fils et que je vous invite à aller voir. Vous allez à cette bibliothèque rue du Périgord, c'est la bibliothèque du patrimoine, et vous demandez de consulter donc ce merveilleux livre d'artiste de Claude Barrère qui s'appelle Le Fils sur des eaux fortes de Jacques Plassès. Alors peu de temps avant sa disparition brutale, un dimanche, fin janvier 2021, Claude Barrère était né en 1946. Il est mort donc un dimanche de janvier 2021. Il avait été promu maître aigeux de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, ce qui pour lui avait été un grand bonheur dont il n'a malheureusement pas pu profiter. Je vais vous lire les dernières minutes. Donc, des extraits de ce livre que je vous invite à vous procurer. Il ne coûte que 10 euros et il faut l'avoir. D'abord parce que c'est un poète d'ici, c'est un poète de Toulouse. Et puis c'est un poète aussi, c'est publié à Toulouse. Anna du Corona. Nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. De qui c'est ça? Mais quand on a des phrases aussi percutantes, c'est René Char. Cerise. D'entre les branches alourdies de feuillages courbes, comme jaillit le rouge à portée de regard, dans l'arbre aux cerises, beaucoup est rejoint en rondeur pleinement et lisse peau lustrée, avec ce oui cryptella de saison annoncée. L'été se cueillera pendant d'oreilles du sentiment énamouré. Voilà. Alors il faut voir évidemment la place des mots, des poèmes, des vers dans la page blanche où s'inscrit ce texte comme une œuvre d'art en définitive. Je crois qu'il met en scène le graphisme du poème lui-même, hein, comme il ferait pour ses gravures, en mettant évidemment pour lui les blancs sont comme les silences et ils occupent une place je dirais presque essentielle dans l'œuvre poétique de Claude Barrère. Canoë, kayak, sur le fleuve Garona, preste, phasme, pagayeur, pattes et bras en cadence. Voilà. Alors ça, c'est un moment fugitif, de mouvement qui est celui des canoës, des kayaks, que l'on peut voir sur la Garonne, ici, à Toulouse, hein. Et voilà, il saisit ça. Alors c'est plus le peintre hein, qui le saisit, c'est plus le dessinateur, le graveur, l'artiste plasticien qui le saisit. Mais comme il est poète aussi, il le saisit par les mots. Par les mots, hein, comme il prendrait un instantané, qu'il mettrait en scène quand même. Parce que voilà, il met en scène preste, phasme, pagayeur, voilà. Pattes et bras en cadence. À toi, co-célébrant du poème. Alors il le met en italique. À toi, co-célébrant du poème. C'est-à-dire, il s'adresse là, je pense, au lecteur. Cette lumière de vitrail entre les plombs a pénétré doucement. Alors il faut savoir que Claude Barrère, là il parle de vitrail, il a écrit sur les vitraux de Soulages. Et ces vitraux où le noir prend une intensité extraordinaire, où il fait rentrer la lumière dans le noir, justement, hein, Soulages dans ces vitraux. Mais il a également, c'est ce que j'ai dit, hein, cette lumière de vitrail entre les plombs a pénétré doucement. Effectivement, Soulages, tout le travail de Soulages, c'est un travail d'une subtilité folle, quand on voit aussi à quel point Cela demandait de travail, de préparation, de méticulosité pour arriver à ce qu'il recherchait sous l'âge. Comment cette lumière allait transpercer ce noir et en même temps donner à ce noir toute sa force, toute sa vigueur. Hein, voilà. Et lui, ça, Claude Barrère, il ressentait vraiment, dans toutes ses tripes, ça, ce travail qu'il y avait là sur le noir et le blanc. Il avait travaillé aussi sur l'œuvre du peintre toulousain, de ce qu'on appelait l'école de Toulouse, mais qui a été un disciple aussi de Soulages, dans cette recherche de la matière et de la lumière qui sort justement de ce noir que l'on croit faussement être le néant et qui au contraire va faire surgir toute cette force. André Morfin. Somnambule, funambule. Ce qu'il te faut de hasard et de nuit pour soliloquer ta solitude. Depuis son jeu de perles de verre, l'enfance vise au cœur la lumière. Voilà. Poème terrible quand même. Ce qu'il te faut de hasard et de nuit pour soliloquer ta solitude. Effectivement, il y a dans la vie de Claude Barrère certainement une solitude. Il est mort d'ailleurs dans la solitude. C'est très, tout à fait tragique de mourir seul ainsi, accidentellement, chez soi. Mais ces soliloques de solitude, il les avait bien sûr. Il les avait. Et il y a là, quand on lit ce poème, ils sont quand même poignants parce qu'ils rendent compte d'une extravagante lucidité. Et en même temps, il arrive à la mettre en scène. Ce sentiment, le mettre en scène, arriver à en faire un poème, une pépite, c'est un orfèvre. Voilà. Conciliation de mots et vents contraires à réaliser dans le chant, il met un C majuscule à chant, conciliation de mots et vents contraires à réaliser dans le chant, voilà. Trois vers, dont un vers avec un seul mot, et il y a là aussi un sens surprenant, pour arriver à faire la réconciliation des contraires. Et c'était une de ses préoccupations, la réconciliation des contraires, chez Claude Barrère. Il voyait d'ailleurs, quand on faisait ces 50 festivals, 50 poèmes festival à la neige, là, 50 poèmes pour la neige, que l'on présentait ici, il venait hein, avec toute l'équipe, Patrick Zellamoy, etc. Claude s'en souvient bien. Il venait ici, dans ce studio, Claude Barrère, étonnamment, il disait que la neige, il voyait dans la neige cette réconciliation du contraire, parce que la neige lui faisait penser, du fait de sa blancheur, de son côté immaculé, lui faisait penser à l'inverse, c'est-à-dire au noir. Et donc il disait, il n'y aurait pas de noir s'il n'y avait pas de blanc, et il n'y aurait pas de blanc s'il n'y aurait pas de noir. Voilà. Je pense que nous arrivons au fait de cette émission. Claude me dit que oui. Je termine sur ceci, consentir au poème après s'y être converti. Consentir au poème après s'y être converti. Voilà, Claude qui s'était converti au poème et qui y avait consenti. En tout cas, Lumière du mois, retranchée dans le poème de l'ombre, on retrouve toujours cette même préoccupation donc de la lumière et de l'ombre, de la neige et du noir. En tout cas, nous en reparlerons donc de Claude Barrère. Je voulais vous signaler ceci, Spicilège poétique aux éditions Noir et B, poésie de Claude Barrère, 10 euros. Voilà. Ainsi s'achève cette émission. Claude et moi, nous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons Adichas, une petite seconde, je voulais simplement aussi signaler, mais nous aurons le plaisir bientôt de vous en reparler. Gilles Baudry, le poète moine Gilles Baudry, vient de publier, et c'est tout récent, aux éditions Adsolem, le chant du balancier. Nous aurons bientôt, au mois d'avril, nous aurons Gilles Baudry, moine poète, et dans une abbaye de Bretagne, qui viendra nous parler de ce magnifique recueil dont je vais vous lire pour terminer juste le liminaire. Le temps est une ombre, tout passe, nous passons aussi comme fleurs des champs, mais en celui qui ne passe pas, en Dieu, jeûne ensemble éternel. Ça c'est de Peggy. D'ici, déjà ici-bas, la lumière fait son miel de tout ce qu'elle touche. Prière et poésie se pollinisent. Ainsi s'achève notre émission et nous reparlerons de Gilles Rondry. Bonne chasse.